Bonsoir donc. Ouais. Donc on est ravis de vous accueillir à l'Espace Mondes France pour la deuxième conférence des Amphis des Lettres, donc qui sont organisées avec l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers. Et ce soir, donc c'est exceptionnel parce que d'habitude les Amphis ont lieu un jeudi par mois à 14h sur le campus, mais ce soir on a fait un partenariat avec le festival Égal à Égal, et donc on propose une conférence qui a pour titre L'auctorialité féminine. Et Anne Debrosse nous expliquera de quoi il s'agit quand on évoque l'auctorialité des femmes, l'écriture des femmes. Et donc, très brièvement, je présente notre conférencière, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers en grec et en littérature comparée, et qui vient de faire paraître le livre La souvenance et le désir, la réception des poétesses grecques aux éditions Garnier. Donc, on a une heure de conférence et ensuite une demi-heure d'échange avec vous. Merci. Et merci Stéphane Bicalo, donc, que je n'ai pas présenté, désolée, qui est co-organisateur du cycle des Amphis des Lettres, avec Martin Rass et Anne-Cécile Guilbert.
Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci effectivement à Stéphane Bicalo et Héloïse Morel d'avoir proposé cette conférence. Alors, j'ai quand même un petit peu affiné la chose, hein, parce que l'auctorialité féminine, ce serait impossible, je crois, en une heure. Preuve qu'il y a des choses à dire. Mais donc, j'ai proposé de plutôt me concentrer sur une perspective d'histoire littéraire, donc l'histoire littéraire d'invisibilisation des autrices. Donc, je pense que le titre est déjà beaucoup plus transparent. Mais voilà, donc ce que j'aimerais commencer par dire, c'est que le premier nom d'auteur dont il reste une trace dans l'histoire littéraire était celui d'une autrice, la Sumérienne Enéduanna, qui vécut au 23e siècle avant Jésus-Christ et dont l'œuvre aurait inspiré le Cantique des Cantiques. Plus de la moitié des auteurs des Ars d'Aimée antiques étaient des femmes. Il a existé une vingtaine de poétesses grecques antiques, donc vous savez que c'est mon dada, hein, donc voilà, il y en avait une vingtaine à peu près, même un peu plus. Il existait également bon nombre de femmes philosophes dans l'Antiquité, dont quelques-unes qui ont pris la direction de prestigieuses écoles, comme Hypatia, par exemple. Mais qui connaît ces faits aujourd'hui? Sappho, oui, Erina, Praxila, Corinthe, Thélésila, Eudoxia, Aspasie. Qui peut dire les noms de ces intellectuels, eux, qui étaient reconnus en leur temps, alors que nous pouvons tous et toutes citer Homère, Aristote, Platon, sans aucune hésitation? En 1980, Marguerite Yourcenar, lors de son discours d'entrée à l'Académie française, disait qu'elle était, je cite, entourée, accompagnée d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû peut-être recevoir beaucoup plus tôt cet honneur. Louise L'Abbé, en 1555, faisait déjà écho à la grande Sappho, admirée et imitée ensuite, notamment par Madeleine de Scudéry au milieu du XVIIe siècle. Et autour de 1900, la poétesse Renée Vivien exhumait les textes des poétesses grecques antiques pour honorer le serment de ses 16 ans, qui était de donner une nouvelle vie, une seconde vie, une visibilité à ces sœurs du passé qu'une discrimination historique avait condamnées à la disparition. Parallèlement, dans le monde des érudits, Fulvio Orsini, en 1568, regroupait en première partie d'ouvrage les textes des grandes poétesses grecques antiques qu'il mettait en vedette. C'est la première anthologie de femmes. En 1699, Gilles Ménage consacrait un ouvrage aux femmes philosophes de l'Antiquité grecque. Depuis longtemps, peut-être de tout temps, des femmes et des hommes ont cherché à retrouver une histoire littéraire des femmes qu'on ne leur avait jamais racontée et qui leur manquait cruellement, tant nous avons tous besoin de modèles auxquels nous identifier, et tant l'impression d'injustice était et reste vive, tant il y a sous nos yeux une béance. Cette béance, c'est l'absence des femmes dans l'histoire littéraire qu'on ne peut croire réelle. L'entreprise d'exhumation des intellectuels du passé ne date donc pas d'hier. Depuis près d'un demi-siècle, les études de genre travaillent à tirer les femmes de l'oubli. Et pourtant, cela ne suffit pas, comme le temps nous l'enseigne. On prédit à la femme, surtout à la femme écrivain, un avenir radieux au début de l'époque moderne. Dans le premier tiers du XVIe siècle, l'Arioste écrivait dans son Roland Furieux, le best-seller du XVIe siècle et même après, que la femme peut enfin prétendre à l'immortalité à travers ses compositions, chose qui, dit-il, lui était pratiquement impossible auparavant, car les hommes jaloux lui faisaient barrage. On verra ce texte un petit peu plus tard, parce qu'il vaut le coup quand même. 500 ans plus tard, aujourd'hui, la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, présidée par Marie-Jo Zimmermann, dont le rapport est sorti en 2008, après avoir constaté, je cite, « la présence très discrète de la place des femmes dans les enseignements d'histoire », formule le même espoir que l'Arioste, 500 ans plus tôt, sur leur visibilité à venir, je cite, « de l'enquête menée par la Halde auprès des éditeurs, il ressort toutefois que la place donnée aux femmes fait plutôt partie des points de vigilance, ce qui témoigne d'une sensibilisation des maisons d'édition ». Des chercheurs ont tenté d'expliquer, bien sûr, ce phénomène sans cesse renouvelé, à savoir la recherche sans cesse renouvelée contre un oubli sans cesse constaté et sans cesse relevé, perçu comme choquant des femmes de l'histoire littéraire, et comme si cette découverte, à chaque fois, à chaque siècle, était inouïe. Notre objectif sera donc ici d'explorer les origines de l'écriture féminine et surtout la perception qu'on en a eue dans les siècles qui nous précèdent. Pourquoi me concentrer sur, finalement, mon sujet de thèse, vous l'aurez bien compris, hein. C'est parce que les autrices ont été nombreuses à exister, parce qu'elles ont été oubliées puis redécouvertes à chaque siècle. Elles nous aideront en fait à comprendre les mécanismes les plus anciens et les plus pérennes d'invisibilisation et de ghettoisation qui ont atteint les écrivaines à travers l'histoire, ainsi que les mécanismes inverses d'exhumation, de redécouverte, et en quoi ils sont spécifiques pour les autrices. Ils nous aideront à tracer les lignes premières et indélébiles d'une histoire littéraire de l'invisibilisation et de la ghettoisation des autrices. Alors, comme une partie de mon service non négligeable, c'est l'enseignement, j'ai été pédagogique et j'ai fait un plan avec, comme vous le voyez, construction ancienne d'une bipolarité fondée sur la création d'une singularité féminine. Alors, en fait, je veux commencer par là parce qu'il me semble qu'il faut commencer par établir en quoi il y a, dans le domaine de la littérature, l'existence d'une distinction entre hommes et femmes et en quoi cette distinction est le fruit d'une construction ancienne. Un constat s'impose. Très tôt dans l'histoire, on a postulé une singularité féminine perçue comme objectif de plusieurs points de vue. Donc d'abord, le féminin apparaît comme un critère de lecture et je commencerai par l'Antiquité avant d'arriver à l'époque moderne. Donc pour ce qui est de l'Antiquité, il y a une première singularisation très flagrante et incontestable. Dans la récitation des textes, hommes et femmes sont parfois distingués. En effet, les poèmes antiques les plus anciens sont faits pour être récités ou chantés par des individus ou par des chœurs. Ils sont donc incarnés par des personnes qui les chantent. La plupart des poètes antiques, hommes et femmes d'ailleurs, écrivent des textes destinés spécialement au cœur de femmes ou au cœur d'hommes, qui entrent souvent dans un rituel précis. Ce sont des hymnes composés en l'honneur d'une divinité et prononcés lors de cérémonies ou de fêtes religieuses. Lors de certains rituels, la mise en scène voulait même qu'un cœur d'homme et qu'un cœur de femme s'opposent et rivalisent par leur chant. Pour ce qui est de l'auditoire ensuite, et c'est la deuxième singularisation qu'on peut remarquer, il peut également se diviser en auditeurs et en auditrices. En effet, certains rituels étaient destinés aux femmes, d'autres aux hommes, d'autres encore étaient mixtes. Tout ça est très variable. Ainsi, certains poèmes religieux étaient entendus par des hommes uniquement ou par des femmes uniquement selon le rite. On le voit dans les sources anciennes, hommes et femmes peuvent être séparés, mais il n'est guère question du goût des auditeurs. Ils écoutent et prononcent le texte car c'est dans le rituel. Bien sûr, on peut supposer qu'un mauvais poème composé en l'honneur d'un dieu ou d'une déesse était chanté sans grande conviction et sans grand cœur. Quoi qu'il en soit, si l'on en croit certains textes, certes assez rares, même très rares, il est question du goût particulier des femmes pour certains auteurs, comme s'il y avait un auditoire spécifiquement féminin. Et d'ailleurs, je reprends le mot spécifiquement qui mérite débat, comme cela a été montré dans l'ouvrage La Sœur de Balzac, par exemple. Donc ainsi Plutarque, et c'est le premier exemple que je vous ai mis sur le petit papier, ou s'il n'y en a pas suffisamment sur la projection, Plutarque, au 1er siècle, dans son traité sur les vertus des femmes, écrit à propos de la poétesse Thélésilla, on dit que son talent poétique lui valut l'admiration des femmes. Donc c'est un étrange texte qui fait des femmes grecques, des lectrices ou auditrices assidues de la poésie de Thélésilla, sans que l'on sache si les hommes appréciaient cette autrice particulièrement. Donc qu'un texte grec antique parle d'une prédilection des femmes pour tel ou tel auteur n'est pas fréquent, je l'ai dit. Cependant, Plutarque était et est resté un auteur très connu et influent, et ce texte-là en particulier. En outre, il n'est sans doute ni le seul ni le premier à mentionner une telle singularité. Donc la question se pose, comment pouvait-on être un auteur à succès pour femmes dans l'Antiquité ? Plutarque signifie-t-il que cela existait réellement ? Et si bien plus tard il a été question d'auteur à succès pour femmes, en effet, dans l'Antiquité, ce phénomène n'est pas flagrant, mais la question se pose. Et enfin, troisième singularisation entre hommes et femmes, pour ce qui est de la production des textes elles-mêmes, l'altérité sexuelle, subie ou assumée, se cristallise dans les lectures qui ont été faites des textes anciens, des lectures très biaisées, de textes qu'on a attribués à des femmes. De l'Antiquité à nos jours, on y décèle souvent une espèce d'aura féminine, ce qui entraîne parfois des analyses et des jugements préfabriqués en fonction de critères genrés. Pardon. Pour ce qui concerne l'Antiquité et les poétesses grecques, pourtant, cette question aurait dû être vraiment posée avec des pincettes, si on peut dire, puisque bien des obstacles auraient dû s'opposer à une telle lecture, à la réception trop attentive à la féminité de ces auteurs. En effet, les autrices dont on souligne à plaisir la féminité de l'écriture pourraient tout aussi bien ne pas avoir existé, ou pourraient avoir été des hommes, puisqu'on sait très bien que les poèmes ou les œuvres ont été réattribués à travers l'histoire. Ce sont des textes tellement anciens que finalement ils sont anonymes pour certains, que certains sont couronnés d'un nom qui n'est pas le bon, et voilà. Donc c'est une difficulté et il faut être prudent sur l'identité des auteurs anciens. Bien plus, les textes ont pu être attribués à des autrices, mais sans que ce soit le cas. Donc les commentaires anciens mettent en exergue un style féminin parce que ce texte était attribué à une femme. Par exemple, un passage de Photius, c'est le deuxième texte que vous avez dans les exemples, donc érudit byzantin, il est né vers 810, révèle que les Grecs percevaient l'existence de, j'ai employé l'expression écriture féminine, à défaut d'autre chose, hein, c'est une expression qui est très marquée, mais bon, donc à son époque. L'expression ne semble pas totalement anachronique. En effet, dans sa bibliothèque, il parle d'un ouvrage de femme. C'est le seul ouvrage de femme qu'il introduise dans son texte. Ce texte, la bibliothèque, c'est en fait un ensemble de résumés de la littérature antique, des grandes œuvres antiques. Cet exemple est d'ailleurs intéressant aussi à plus d'un titre. On voit qu'il y a un seul texte de femme dans cette bibliothèque de Photius qui est aujourd'hui en plusieurs volumes. Donc l'ouvrage féminin dont il est question chez Photius est intitulé « Notes historiques diverses » et il aurait été écrit par l'historienne Pamphila qui vécut sous Néron. Et Photius, comme pour les autres œuvres, porte un jugement sur le contenu et le style de l'ouvrage qu'il cite. Et son jugement, c'est son style, pour autant qu'on peut le saisir dans la préface et quand elle parle ailleurs en son propre nom, surtout dans la pensée, appartient comme c'est naturel à ce qui vient d'une femme, au genre simple. Le vocabulaire même ne s'écarte pas de ce genre. C'est moi qui ai mis en italique dans le texte. Donc l'adjectif pour désigner le genre de style de Pamphila, un style de femme, veut dire simple, sans recherche. À l'époque de Plutarque, il peut s'agir aussi d'un mot qui signifie sincère ou naïf. Comme il y a un helléniste dans la salle au moins, je le cite, c'est Aphélès. Donc, l'écriture d'une femme pour des femmes est peut-être considérée en ces termes comme une écriture simple, naïve peut-être. Il n'y a là, en tout cas, on le voit, rien de commun avec les grands styles. Dans la modernité, il en va de même, bien que les termes soient bien différents, évidemment. Montaigne estime dans ses essais, donc vous le voyez sur le document, que les femmes ont un style également particulier, ou décidément j'ai été trop loin. Dans ses essais, donc il suppose que la poésie convient aux femmes, car il dit, je cite, que c'est un amusement propre à leurs besoins, c'est un art folâtre et subtil, déguisé par liés, tout en plaisir, tout en montre, comme elles. Elles tireront aussi diverses commodités de l'histoire. En la philosophie, de la part qui sert à la vie, elles prendront les discours qui les dressent à juger de nos humeurs et conditions, à se défendre de nos trahisons, à régler la témérité de leurs propres désirs, à ménager leur liberté, à allonger les plaisirs de la vie et à porter humainement l'inconstance d'un serviteur, la rudesse d'un mari et l'importunité des ans et des rides et choses semblables. Voilà pour le plus la part que je leur assignerai aux sciences. Donc ce qui occupe les femmes, ce sont leurs rides, c'est bien connu. La Bruyère, plus tard, dans ses caractères, pense que les femmes ont un esprit ainsi fait qu'ils se prêtent bien volontiers à l'expression brute des sentiments, d'où leur excellence dans le genre épistolaire. Les femmes trouvent sous leurs plumes des tours et des expressions qui, souvent, en nous, ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche. Heureuses femmes qui n'ont appris ni à écrire ni à composer. Heureuses femmes qui sont, comme Agnès, riches de leur ignorance. Donc les rides et l'ignorance. Dans ces exemples, les auteurs prêtent aux femmes qui écrivent ou qui écoutent une sensibilité, un rôle et une écriture distincts de ceux des hommes, ce qui justifie leur regroupement, par ailleurs. Ainsi, une exception lexicale, stylistique et esthétique leur est prêtée sur une très longue période, une exception qui se retrouve dans les qualités que l'on prête au lectorat féminin. Il suffit d'écouter Boileau au XVIIe siècle pour entendre que le roman, qui est un genre tout nouveau à l'époque et en plein essor, les romans ne peuvent attirer qu'un lectorat féminin ou, sinon, efféminé. Bien plus tard, au XIXe et XXe siècle, le topos d'une écriture et d'un lectorat féminin imbu de sentimentalisme et de naïveté fit florès. Je prends un exemple justement pris dans le livre « La petite sœur de Balzac ». De Barbet d'Aurevilly dans Les Bas Bleus, 1878. Les femmes peuvent être et ont été des poètes, des écrivains et des artistes, mais elles ont été des poètes femmes, des écrivains femmes, des artistes femmes. Étudiez leurs œuvres, ouvrez-les au hasard, à la dixième ligne, et sans savoir qui elles sont, vous êtes prévenus et vous sentez la femme, odeur des féminins. Je ne reconnais pas le droit aux femmes d'écrire l'histoire, les femmes ont la tête et la main trop petites pour cela. Donc les grands genres, évidemment, ne sont pas admis. Pour les femmes, bon, évidemment, Barbet d'Aurevilly, ce n'est pas le plus grand progressiste de tous les temps, hein, donc je reviendrai aussi sur cette question-là. À partir du moment où les auteurs sont des femmes et qu'on leur a constamment reconnu une spécificité, on a tendu à les réunir et à les étudier ensemble en les extrayant des corpus d'auteurs en général. Ainsi, à l'époque hellénistique, on constitue des canons de poétesses grecques, alors que leurs deux seuls points communs sont leur sexe et qu'elles composent de la poésie. Ces deux critères sont atypiques. En effet, on préfère en général des catégories plus fines et en leur sein l'indifférenciation sexuelle. Je prends pour exemple, à la même époque, le canon des poètes lyriques, donc c'est un type de poésie précis, et dans ce canon de poètes lyriques, il y a une femme, Sappho et huit hommes qui sont traités exactement de la même manière. Normalement, on agit comme ça. Pour les autrices, le sexe a donc été un critère de classement primordial et très ancien, qui est en hiatus avec ceux, les critères, qui s'imposent pour toutes les autres catégories d'auteurs. En effet, les poétesses grecques ont été regroupées dans des canons à partir du 1er siècle, autour du 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Cette particularité du corpus féminin perdure et semble même s'amplifier avec le temps. Au IIe siècle de notre ère, Clément d'Alexandrie regroupe dans une même liste les femmes philosophes, peintres, poètes, sages, au sens large. Ces noms de doctes femmes lui servent d'exemple pour prouver que la femme peut atteindre la perfection tout comme l'homme, parce que la chose n'est pas assurée et ne le sera pas avant longtemps. Donc dès le IIe siècle, les listes de noms de femmes qui sont restées dans l'histoire pour telle ou telle qualité sont ainsi l'aliment d'une réflexion plus globale sur les compétences de l'ensemble du sexe féminin. C'est souvent dans le même but qu'au XVIe et XVIIe siècle, les femmes, et plus particulièrement les autrices, font encore l'objet de regroupements qui repose sur le seul critère du sexe. Ainsi, pendant ces deux siècles, on n'arrête pas de constituer des listes de femmes célèbres dans des ouvrages qui prennent la défense des femmes et cherchent à les promouvoir. Il arrive que les regroupements d'autrices ne répondent pas de façon si ouverte à des préoccupations philogynes. La première anthologie de femmes auteurs contemporaines, c'est une anthologie de poétesses encore, compilée par l'Italien Domenichi, et cette anthologie est parue en 1559. C'est vraiment la première que je trouve dans l'histoire, hein. C'est la première dont on ait trouvé une trace, la première anthologie de femmes. Et elle ne semble pas constituée afin de démontrer les capacités poétiques des femmes. Cependant, ce genre d'ouvrage est de toute façon l'indice que des réflexes de lecture genrée s'imposent à l'époque. Ça n'est pas pour rien qu'on regroupe les femmes. Par ailleurs, le Domenichi avait fait un ouvrage en faveur des femmes quand même. Donc, quand on cherche un peu, on trouve. Aujourd'hui, par ailleurs, on ne compte plus les anthologies de femmes auteurs. Les anthologies d'autrices sont partout. Ainsi, la postérité n'a cessé de regrouper les noms de femmes auteurs dans des canons constitués sur la base du sexe des autrices. Bien sûr, les présupposés et objectifs ne sont pas les mêmes à travers l'histoire. Néanmoins, tout se passe comme si les femmes ne pouvaient pas toujours et tout simplement faire partie de l'espace littéraire au même titre que les hommes, presque des origines jusqu'à une date récente. Alors, le féminin est en effet un critère de sélection des textes anciens et contemporains, puisque face à ces types de pensées récurrents, le fait de regrouper les femmes auteurs, qui n'était pas anecdotique, il y en a beaucoup, le soupçon que la détermination d'une spécificité féminine aurait pu être à la source d'une discrimination particulière est énoncé assez tôt par ceux qui les constatent et les combattent. Donc un débat a été lancé à la Renaissance sur la transmission des œuvres antiques en général, vous le savez. On a bien vu que des tris successifs avaient progressivement diminué le corpus antique. Mais il y a eu des théories genrées chez l'Arioste, je l'ai dit, chez Dubellay aussi par exemple, quand même de très très grands auteurs. L'hypothèse a été avancée que les œuvres des femmes auraient disparu en raison de la jalousie des hommes, une hypothèse que j'aurais imaginée pensable uniquement au XXe siècle dans les études de genre les plus échevelées. Voici d'ailleurs le texte. L'Arioste, c'est sans doute le plus célèbre. C'est l'édition de 1532 et les 184 vers liminaires du chant 37 sont consacrés à cette notion. Je vous laisserai le lire tout en parlant de ce texte. Donc, les femmes auraient été volontairement tenues dans l'obscurité par des historiens, je cite, au cœur dévoré de jalousie. L'idée dont l'origine exacte ne m'est pas connue. Je l'ai trouvée chez l'Arioste et il ne me semble pas l'avoir trouvée plus tôt. Ou voilà. Peut-être aussi que c'est une idée qui est issue des salons dans lesquels il y aurait eu des discussions à ce sujet. En tout cas, cette idée finit par faire partie des poncifs de l'époque. On l'entend à plusieurs reprises et dans différents types de textes. L'optimisme de l'Arioste est tout à fait notable. Il pense que la jalousie des hommes est terminée. Il pense que les poètes sont désormais favorables aux femmes, qui n'ont plus qu'à écrire pour franchir les siècles. En écho à cet optimisme exprimé par les auteurs, certaines autrices se plaisent également à constater l'avènement d'une nouvelle époque. Alors j'espère ne pas vous frustrer trop en passant ainsi. Donc l'optimisme, comme vous le voyez, est partagé par Louise Labbé dans l'épître dédicatoire à Clémence de Bourges, placée en tête de ses œuvres en 1555. Louise Labbé est bien le symbole de ces femmes qui semblent libérées des entraves du passé et qui se réjouissent de bientôt rivaliser avec les hommes après avoir abandonné leur fuseau et rattrapé leur retard, retard qui est dû à leur ancienne mise au banc. Donc, je vous donne le texte en entier. Je ne puis faire autre chose que prier les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes faites pour commander, si nous devons nous être dédaignées pour compagnes, tant en affaires domestiques que publiques, de ceux qui gouvernent et se font obéir. Alors, les raisons invoquées par l'Arioste et d'autres de ses contemporains concernant la disparition des œuvres et des noms de femmes peuvent bien sûr prêter le flanc à la critique. En tout cas, on le constate, les chercheurs d'aujourd'hui peuvent parfois réactiver le soupçon de sexisme qui a été formulé dès la Renaissance. Quoi qu'il en soit, le résultat est néanmoins bien là. Les œuvres et les noms de ces autrices anciennes ont massivement disparu, à la fois matériellement, puisque les textes sont rares, et symboliquement, puisque les textes qui restent et les noms, qui sont toujours connus, ne sont pas connus du public. Quant aux érudits eux-mêmes, bien sûr, les noms des autrices antiques ne leur sont pas toujours connus, ce qui est normal aussi, on est spécialisés. La question du statut du texte est fondamentale, car c'est elle qui ouvre ou ferme l'accès à la postérité. On s'efforce de transmettre les œuvres de valeur quand on constitue un canon. On laisse les autres disparaître parce qu'on estime qu'elles n'ont pas d'intérêt pour la postérité. Et il me semble qu'il faut souligner ce point et à quel point les auteurs et la réception sont très souvent attentifs au statut du texte chez les anciens comme chez les modernes. On parle de la qualité littéraire du texte. Si l'on considère que les œuvres de femmes sont marquées par une odeur di femina, pour reprendre les termes de Barbet, qu'elles sont forcément le fruit de têtes et de mains trop petites, pour reprendre l'expression de Barbet de Réville encore, alors ces œuvres, trop frêles, ne seront pas transmises. Au regard de cette disparition visible qui les menace, certaines autrices elles-mêmes, dès la Renaissance, expriment leur hantise d'être éliminées de la mémoire des hommes en raison de leur sexe et malgré la production d'une écriture de valeur. Jacqueline de Miremont exprime l'idée en 1602, enfin elle exprime l'idée de l'Arioste mais sans le même optimisme, je ne l'ai pas mis dans les exemples. Elle dit en effet « Toujours la tyrannie et les jaloux des saints ont du sexe plus beau les dignes faits éteints ». Et ensuite elle ne dit pas « Mais aujourd'hui tout va bien ». Non, elle garde le silence. Lucrezia Marinella, Marie de Gournay, pense également que l'époque n'est pas plus favorable aux femmes que celles qui ont vu leurs œuvres faire l'objet d'une censure sexuée. Vous avez plusieurs exemples ici. Alors, je descends un petit peu si j'y arrive. Dans le grief des dames, eussent les dames ces puissants arguments de Carnéade, donc un des plus célèbres avocats de l'Antiquité. Il n'y a si chétif qui ne les rembarre avec approbation de la plupart des assistants. Quand avec un sourire seulement ou quelques petits branlements de tête, son éloquence muette aura dit « c'est une femme qui parle ». J'en ai connu qui méprisaient absolument les œuvres des femmes sans se daigner amuser à les lire pour savoir de quelle étoffe elles sont et sans se vouloir premièrement informer s'ils en pourraient faire eux-mêmes, qui méritassent que toutes sortes de femmes les lussent. Et pareil en Italie, Lucrezia Marinella, qui dit aussi que si vous engendrez une bonne œuvre parfaite et louée, vous ne la verrez pas longtemps imprimée, ce qu'on peut facilement prouver. Considérez de vous-même combien de livres d'hommes de l'Antiquité ont été conservés et sont conservés, et si nous en voyons un seul de femmes. Je parle des antiques. Pourtant, nous pouvons croire qu'il y en eut au moins quelques-unes, si pas plus, qui ont composé des œuvres dignes d'une gloire éternelle. Néanmoins, de ces dernières, impossible de retrouver traces, petites ou grandes, sauf chez les historiens, qui souvent ajoutent à leur récit quelque chose, bien que sans fondement, pour appuyer leurs propres ouvrages. C'est de là que vous pouvez connaître que les hommes ne veulent pas promouvoir vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ils convoitent les premières, ils rabaissent les secondes, ils ne veulent pas, puisqu'ils ont acquis la tyrannie sur le royaume de la gloire, que les femmes rivalisent avec eux. De là, toutes vos œuvres courent dans le sein de l'oubli. Je ne lis pas la suite, je vous laisse la découvrir. Bien plus, l'idée est prolongée par Marie de Gournay qui souligne que, loin de se soutenir les unes les autres, les femmes, au contraire, entrent en concurrence et que les femmes, on va dire normales, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose, s'en prennent aux femmes de lettres. Vous avez ça chez Marie de Gournay et également chez Gabrielle Suchon, je vous laisse voir également ces textes. Nous voilà bien loin des injonctions de Louise Labbé aux femmes, les invitant à élever leurs âmes au-dessus de leurs fuseaux. La chose, s'élever au-dessus des fuseaux, est de toute façon bien difficile, car, comme le rappelle Marie de Gournay dans l'exemple que vous avez sous les yeux, elle le dit bien avant Virginia Woolf, par exemple, les normes sociales qui pèsent sur les femmes ont pour conséquence que Socrate et Saint Paul n'auraient jamais pu être des femmes, ou plutôt que des femmes n'auraient jamais pu avoir ce rôle-là dans la société et dans le monde, car, comme toutes les femmes, leur rôle et leur liberté étaient bien moindres que ceux des hommes. Ainsi, si l'on en croit ces écrits de femmes qui se disent victimes de la pression sociale, le sexe détermine, avant même tout contact avec l'œuvre, la façon dont on va la lire, voire même ne pas la lire, et la condamner à l'oubli à plus ou moins long terme. Cela parce que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe détermine a priori l'ensemble des qualités et des défauts qu'on attribue à l'auteur. Certains estiment que, parce qu'elles sont femmes, les autrices écrivent forcément mal ou moins bien que les hommes, aussi déplorables ces hommes soient-ils d'ailleurs. Cet ensemble de qualités et de défauts genrés est remis en cause par certaines autrices et certains auteurs. Pourtant, les autrices sont également nombreuses à assumer une séparation sexuée qui leur sert souvent de tremplin. Beaucoup, en effet, revendiquent un attachement à une lignée, à une communauté féminine. Certaines autrices ne conçoivent pas la séparation sexuée comme la validation de clichés sexistes. Au contraire, elles cherchent cette séparation sexuée parce qu'elles cherchent une généalogie légitimante et le confort du même. En effet, face aux béances de la mémoire et afin de réparer l'injustice et d'encourager les vocations d'écrivaine, il y a eu comme un acharnement à retrouver les traces les plus petites des femmes qui ont écrit dans le passé et les raisons de leur disparition à certaines périodes et dans certains groupes. Les autrices les plus anciennes, les poétesses grecques, qui sont les plus lacunaires et les plus évanissantes, occupent en fait une grande place dans la mémoire des personnes qui ont succédé ensuite pour des raisons que je veux énumérer à présent, parce qu'il me semble que c'est l'origine, effectivement, de cette invisibilisation littéraire. Alors, deuxième point donc de ma réflexion, ça ira plus vite ensuite, rassurez-vous. Donc, quête identitaire par la redécouverte des ancêtres en écriture, création d'une lignée féminocentrée pour justifier l'écriture des femmes. En fait, la singularisation des autrices que j'ai tenté de vous montrer, bon, évidemment, cette singularisation n'est pas dans toutes les sources, hein, c'est un certain type de source. Donc, cette singularisation, qui est quand même très présente et très fréquente, engendre un questionnement identitaire chez les femmes qui veulent écrire, dans l'Antiquité déjà, mais encore plus spécialement pendant la première modernité. En effet, à partir du XVe siècle, les écrivains partent à la recherche de pères, pour reprendre l'expression de Jacqueline Cerchellini-Toulet, pères, P-E-R-E-S. Et plus particulièrement, au même moment, les écrivains, hommes et femmes qui cherchaient à légitimer l'écriture des femmes, ont réfléchi en termes de genre et ont tenté de construire ou reconstruire une lignée féminocentrée en raison d'une polémique nouvelle qu'on a appelée la querelle des femmes. Et l'expression « querelle des femmes » sert donc à désigner les controverses sans précédent qui ont eu lieu au XVIe siècle notamment, sur la nature du sexe féminin, était-il inférieur, supérieur ou égal à l'homme. Et partant, on se posait la question de la place à accorder aux femmes dans la société. Donc ces controverses se sont incarnées dans la production de beaucoup d'ouvrages à ce sujet, et ces ouvrages sont souvent remplis de listes de noms de femmes parce qu'on prouve l'excellence des femmes par l'exemple. Les listes de femmes illustres prouvent que les femmes peuvent être des auteurs de hauts faits, comme Camille, Jeanne d'Arc, Judith, de faits indignes également, comme la papesse Jeanne, par exemple. En fait, l'usage de l'exemple dans l'argumentation polémique ne surprend pas. Les femmes célèbres constituaient à l'époque, comme aujourd'hui, un exemple historique pour montrer des modèles de leur sexe aux jeunes filles, pour les inciter à s'engager dans les voies qu'elles délaissent. Aujourd'hui, c'est particulièrement le cas pour les sciences dures. Ce raisonnement et ce procédé sont appliqués à la femme auteure. Sappho est utilisée pour montrer aux femmes que la voie est ouverte, puisqu'il y a un précédent réputé, et à vrai dire, le premier précédent, puisque pendant très longtemps, on a cru que c'était la première femme de l'histoire à avoir écrit. Les textes d'Enedhuana, que je citais au début, hein, de la Sumérienne, ont été retrouvés en 1927 seulement, dans les ruines de la cité d'Ur. Ainsi, dans les listes, les autrices se placent et sont placées dans une lignée et au sein d'un groupe, d'un panthéon plus ou moins mythifié, mais de plus en plus mythifié, que les femmes composent elles-mêmes et se transmettent de génération en génération. Les poétesses grecques permettent ainsi, dans la littérature et dans la société, des phénomènes d'identification et des mouvements qu'on pourrait presque dire communautaristes. Et je dis bien les poétesses, puisque si Sappho, c'est bien la voix originelle, la première femme, le modèle par excellence, Néanmoins, il est délicat, surtout dans la première modernité, que les autrices s'appuient sur la seule Sappho, qui est d'abord un modèle trop exceptionnel. Il y a une seule grande femme, c'est Sappho, donc les autres, voilà, ça n'a pas trop d'intérêt. Elle peut être un modèle trop exceptionnel, mais elle peut aussi et surtout être un modèle trop dangereux, puisque en raison de sa sexualité supposée. Il s'agit donc bien d'une stratégie comparable à celle des féministes d'aujourd'hui, présenter des figures modèles dont il est question, mais cela va au-delà. C'est-à-dire que les poétesses grecques, et Sappho en particulier, ne sont pas de simples modèles. Elles deviennent pour les autrices qui commencent à écrire en masse à la Renaissance, le modèle, les modèles par excellence. En fait, la compétence ontologique des femmes est ratifiée par l'essence, l'exemple ancien. Une femme est capable, comme on le voit à travers les siècles. Et les siècles ont validé ces exemples, et la pluralité des femmes qui ont pu écrire valide le fait que toutes les femmes sont capables, et pas seulement une ou deux femmes exceptionnelles. Donc faire référence aux autrices originaires dans les siècles les plus reculés, c'est postuler une possible qualité de l'œuvre et de l'écriture des femmes, car Sappho et les autres sont reconnus par leur père, donc rappelons quand même que Sappho apparaît chez Platon, Plutarque et les plus grands auteurs de l'Antiquité. Donc ces femmes ne sont pas des exceptions parce qu'elles sont nombreuses. Alors cependant, ces modèles posent problème, pas seulement Sappho, car comme vous le voyez avec la très belle citation du début que j'aime beaucoup, donc Julien-Joseph Viret, 1802, « Toutes les femmes philosophes de l'Antiquité ont été des prostituées ou peu s'en faut. » Forcément, selon lui, une savante devient aisément libertine parce que les principes de conduite de la femme sont moins dans sa raison que dans son imagination. Alors la multiplication des poétesses comme modèles est liée, on l'a vu, à la volonté de prouver une capacité ontologique et à une volonté de noyer le problème moral que constituait Sappho, qui était soit lesbienne, soit avec une sexualité débridée, hein, dans les légendes. Mais la femme qui écrit, tout simplement, pose problème, c'est pas seulement Sappho. Car, en effet, l'écriture est un acte public. À partir du moment où on écrit, on publie. Et donc, la femme va dans le public sans se cantonner à la sphère privée. Déjà, l'auteur syrien chrétien prosélyte du IIe siècle, Tassien, dans son discours aux Grecs, avait fait ce rapprochement entre des femmes auteurs, des autrices, et des femmes qui avaient eu des relations sexuelles de tous ordres, notamment incestueux, etc., enfin des relations sexuelles jugées contre nature. En effet, comme vous le voyez, pour lui, Sappho est une espèce de bonne femme prostituée obsédée sexuelle qui chantait ses propres dérèglements charnels. Et de l'autre, on voit toutes les vierges qui sont sages chez nous et qui parlent de Dieu en maniant leurs quenouilles. Donc Tassien oppose les femmes chrétiennes aux femmes païennes, les femmes chrétiennes qui restent à la maison à manier leurs quenouilles et les femmes païennes qui éventuellement pouvaient présenter des textes d'obsédés sexuels. Donc la traduction est de moi, mais je pense qu'effectivement elle est à peu près, elle restitue pas mal la réalité. Donc les femmes qui semblaient monstrueuses à Tassien en raison de leurs accouplements adultères sont rapprochées de Sappho et d'autres écrivaines, d'ailleurs, là j'ai cité Sappho, mais comme si le péché d'écriture était analogue au pire péché de chair. Tassien, est le premier qui a laissé une trace d'assimilation entre les écrivaines et la débauche, il me semble. Donc écriture et débauche, c'est la même chose. Et si l'on regarde de près le texte que je vous ai donné, la différence est très nette et on voit bien que Tassien s'en prend aux poétesses parce qu'elles n'ont rien d'écrit d'utile, ça c'est ailleurs dans le texte aussi, et parce que Sappho était donc cette Gunaion Pornikon, cette femme Pornikon. Dès lors, aucune différence n'existe entre Sappho et les pornographes, par exemple, et aucune différence n'existe entre elles et d'autres poétesses comme Corinne ou Erina, qui sont citées par Tassien. Or, Erina est réputée morte vierge avant mariage, très jeune, à peine sortie de l'adolescence. Donc les vierges chrétiennes, elles, parlent de Dieu, donc c'est utile, Et qui plus est, elles en parlent dans la sphère domestique où elles se rendent utiles en filant. Et on ne saurait voir à travers la description des vierges chrétiennes une franche incitation pour les femmes à sortir de l'espace domestique et à sortir des paroles qui ne sont pas écrites. Donc ces regroupements oppositifs manifestent une prise de position très nette de la part de Tacien pour ce qui concerne les femmes et la place que leur accorde la société, qu'il leur accorde dans la société. La différence est très nette par rapport à un Clément d'Alexandrie que j'ai déjà cité au IIe siècle, auteur chrétien légèrement plus tardif, père de l'Église, donc ça n'est pas n'importe qui dans la religion, et qui mit au contraire tout son zèle à faire concorder les pensées grecques et chrétiennes. Il loue les écrivaines antiques, il les porte au pinacle en groupe, comme je vous l'ai dit, pour prouver l'égalité d'intelligence entre les hommes et les femmes et la capacité ontologique des femmes. Donc l'écrit et la compétence intellectuelle supplantent les mœurs supposées de ces femmes qui écrivaient dans l'échelle des valeurs aux yeux de Clément d'Alexandrie. Il nomme Sappho et il ne fait pas du tout référence à sa sexualité ou à un quelconque problème. Le regroupement des noms d'autrices est donc opéré en raison de critères diamétralement opposés. Dans certains textes, on le voit, se lie la crainte viscérale de la femme qui écrit. On les regroupe pour les honnir en groupe. Dans d'autres cas, au contraire, on les regroupe pour les admirer en groupe, sans arrière-pensée pour une quelconque question morale. La différence tient, vous le voyez, à la règle de moralité qui s'appliquait aux femmes. Dans la modernité, il en va de même. Tacien ouvre une voie qui a été largement empruntée par la suite. Donc les autrices grecques qui sont les modèles, comme je vous le disais, les premières et les plus prestigieuses, sont de plus en plus considérées comme universellement lascives et immorales, tandis qu'on va mettre de plus en plus en avant quelques autrices latines, qui sont considérées comme moins sulfureuses. Et après la contre-réforme, c'est l'ensemble des Grecs qui est condamné par contamination avec Sappho, et parce qu'elles sont regroupées toujours de façon assez systématique. Donc on voit ça dans le discours de la vertu du Tasse. Donc le Tasse a adressé un court texte à la duchesse de Mantoue et il cherche à montrer que la vertu des hommes, certes, réside dans le courage, mais la vertu des femmes réside dans leur chasteté, qui va de pair avec le silence. C'est ça l'objectif de son texte. Il dit bien qu'il existe des exceptions, c'est-à-dire que le commun des mortels n'équivaut pas aux héros. Néanmoins, même pour les gens d'exception, il y a des hiérarchies. Selon lui, il faut préférer Scipion à César. Scipion, le général, très rigoureux moralement, César quand même était connu pour ses appétits sexuels. Donc il a beau être un bon général et un bon homme politique, il est moins bien que Scipion. Dès lors, parmi les femmes savantes, la hiérarchie existe également. Il faut prendre Cornélia pour exemple, la mère des Gracques, c'est Cornélia. Et les autres Grecs, en revanche, sont laissés de côté parce qu'elles ne sont pas dignes d'être des exemples, comme c'est marqué dans le texte que vous avez sous les yeux. Et en effet, c'est l'exemple de Cornélie que Torquato Tasso indique à ses protectrices. Et en fait, il arrive à un moment où, pendant longtemps, on avait substitué à Sappho d'autres modèles grecs. Par exemple, Thélésila, dont je vous ai déjà parlé. Cependant, vous le voyez bien, Thélésila, qui la connaît ici, bon, pas grand monde, donc on ne peut pas dire que Thélésila ait le même poids qu'une autrice comme Sappho, qui en impose vraiment. Donc ça n'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait rechercher. Mais c'est encore pire avec les latines qui remplacent les grecs, puisque vous voyez, Cornélie n'a même pas de nom, c'est la mère des Gracques. Bon. Donc elle est connue pour quoi ? Pour avoir été la mère des Gracques. Donc si bien que c'est l'abnégation et la dévotion familiale qui ont rendu célèbre Cornélie, et les femmes grecques n'ont pas cet attrait moral de la matrone romaine qui devient le parangon de la vertu féminine dans la fin du XVIe siècle. Et en fait, repousser Sappho, comme exemple, c'est postuler que la respectabilité, la question de la morale, prime sur la question de l'excellence littéraire. Et c'est d'une certaine façon mettre en danger la production littéraire féminine au profit d'une allégeance au discours dominant, qui sont ceux de la conception particulière qu'on avait du rôle des femmes. c'est aussi et surtout refuser aux femmes un certain type d'écriture, puisque Sappho fait office de précurseur, et elle a écrit de la poésie amoureuse. Or, au XVIe siècle, apparaît à nouveau une poésie amoureuse nouvelle, la poésie pétrarchiste, et il pourrait être dangereux pour une femme de s'y adonner, dans la mesure où c'est une poésie érotique. Or, les Grecs qui ont pu faire ce type de poésie justifient ce type de poésie pour les siècles qui suivent. Donc, si on les bannit des exemples, en fait, on évince les femmes de l'une des plus grandes productions littéraires du XVIe siècle, à savoir la poésie pétrarchiste amoureuse. Par conséquent, certains auteurs s'élèvent contre leur ostracisme et même les poétesses grecques deviennent l'objet d'une âpre bataille entre ceux qui veulent édifier les femmes et ceux qui veulent les éduquer. Cette bataille est très manichéenne en France dans les années 1640, où certains groupes rejettent très violemment l'éviction sournoise des poétesses grecques des exemples qui sont donnés. Alors, dans les galeries de portraits de femmes, à l'époque, on faisait des galeries de portraits de femmes pour les donner en exemple aux femmes, justement. Il y avait deux camps farouchement opposés. Donc, ceux qui étaient partisans de la respectabilité, incompatible avec la production littéraire, et les partisans de l'éducation qui veulent montrer que respectabilité et littérature, production littéraire, ne sont pas nécessairement incompatibles. Et le débat, bien sûr, est valable pour les femmes avant tout. Ça n'est pas valable pour les hommes, ou pas de la même façon. Bien plus, vous le comprenez bien, évincer les modèles grecs de la littérature pour les hommes, évincer Homère, Platon, Plutarque, ça semble difficile. C'est un peu trop pesant comme modèle. Alors que évincer Sappho ou d'autres, c'est quand même un petit peu plus facile. Donc en France au XVIIe siècle, hein, ces portraits de femmes illustres prolifèrent et ce sont souvent des hommes d'église qui écrivent ces galeries, comme le moine, là c'est le père le moine en fait, qui écrit une galerie des femmes fortes. Et dans ces recueils, il y en a 4 ou 5, hein, Sappho et les autres Grecs sont en général ôtés. Elles n'y sont pas, elles ont disparu. Et il s'agit, pour reprendre l'expression de Catherine Pascal, je cite, de se servir du livre pour s'introduire dans les salons afin de polir l'esprit et les mœurs de la femme par des ouvrages autrement moins dangereux et plus utiles pour sa vertu que le Roland furieux de l'Arioste ou la Jérusalem délivrée du Tasse, lecture empoisonnée, comme par hasard encore le Roland furieux dont vous vous souvenez. Donc dans cette perspective et dans le domaine des galeries de femmes fortes, de femmes héroïques, les pères, comme je vous le disais, les pères Le Moine, Grenaille, Dubosc et d'autres ont été les plus productifs. Leurs ouvrages ont eu un énorme succès et ont été sans cesse réimprimés. Et le public ciblé est spécifiquement féminin, comme vous l'avez vu et comme vous le voyez sur la citation que vous avez derrière moi. Il s'agit de bien instruire les dames, et pour bien instruire les dames, il faut des exemples. Et pour bien instruire les dames, il faut également adapter le discours, c'est-à-dire que les femmes ne doivent pas être dégoûtées des livres, parce qu'on voit bien que, comme disait Barbet de Révillé, tête trop petite, main trop petite, c'est un petit peu difficile de lire des ouvrages compliqués. Alors, chez Grenaille et Le Moine, il n'y a aucune poétesse grecque, il n'y a aucune grecque, en fait. Le Moine propose 20 exemples, rangés en 4 bandes. Ces 4 bandes, comme il l'appelle, c'est les Juives, les barbares, les romaines, les chrétiennes, exit les grecs. Le moine ne justifie pas ce choix de les exclure, alors que quand même il y a des exemples majeurs, mais on peut supposer que c'est parce qu'elles sont devenues les paradigmes de femmes savantes plutôt que respectables, là où les romaines restent des femmes vertueuses avant tout. Donc les grecs sont repoussés quand on cherche à édifier les femmes. Chez le père Dubosc, en revanche, Sappho fait quand même une timide apparition de façon très périphérique. L'objectif du père Dubosc est de tracer des parallèles entre hommes et femmes illustres, à l'image de Plutarque, mais selon une délimitation sexuelle. Il justifie son projet, qui peut sembler factice, par le constat que les vertus féminines et les vertus masculines diffèrent. Ainsi, dans le livre premier, qui se présente comme une synthèse argumentée sur l'excellence des vertus héroïques, le premier chapitre est intitulé « De l'égalité et de la diversité des vertus de l'un et de l'autre sexe » et « En quoi chaque sexe semble avoir ses avantages et ses vertus particulières ». Donc Sappho est intégrée dans son discours de justification et elle prouve que l'on peut comparer des hommes et des femmes dans le même domaine de production. Je cite « Et quoi ?» ajoute Plutarque. « Ne peut-on pas comparer les vers de Sappho et ceux d'Anacréon ou les oracles des Sibylles aux réponses de Bacchis ? Est-ce un autre art poétique ou une autre science de prédire ?» En plus, il cite Plutarque, hein, ça n'est même pas lui-même qui dit cela. Donc, hormis cette discrète référence, les personnages féminins mis en vedette, mis en parallèle avec les personnages masculins, sont les mêmes que ceux que l'on trouve chez le moine, donc pas de grec. Pourtant, donc, le courant religieux n'est pas le seul à produire des vies de femmes illustres. Madeleine de Scudéry produit elle-même Les femmes illustres ou les harangues héroïques, en 1642, un ouvrage qui est également une galerie de femmes qui sont présentées comme des modèles. C'est publié exactement au même moment, en 1642, vous voyez que le moine, 1647, et que les autres. Et en fait, le recueil s'achève sur une lettre fictive de Sappho à Erina, la poétesse grecque Erina, où Sappho exhorte sa jeune compagne, Erina, à prendre la plume dans le but de la surpasser, elle, Sappho, pour être meilleure qu'elle. Et ce recueil est une réponse, en fait, une réponse mondaine, une réponse du monde galant aux galeries mises en place par les religieux. De fait, les femmes écrivains sont majoritaires chez Scudéry, alors qu'elles n'apparaissent pas chez Dubos, le moine et Grenaille. En fait, là où les religieux aussi mettaient au banc de leurs œuvres l'Arioste, Scudéry marque son attachement à cet Italien en convoquant des figures qui sont présentes dans ses romans. Certes, Scudéry est très sensible à la rigueur morale, hein, c'est une époque où de toute façon on ne plaisante pas avec ça, donc elle est sensible à la rigueur morale de ses personnages, elle ne s'écarte pas des préoccupations des pères, le moine et des autres, qui sont des édificateurs. Néanmoins, la différence existe véritablement et pour notre propos, elle est très importante. C'est-à-dire que chez Scudéry, Sappho et Erina ont leur place, là où elles n'avaient pas leur place chez les hommes d'église. Les canons se recoupent parfois, on peut voir les mêmes personnages, mais à la marge, certains n'y sont pas. Et c'est dans ces marges qu'on voit bien la différence entre les deux types de canons, le canon mondain et le canon religieux. Et c'est la figure marginale de Sappho qui devient la figure la plus honorée finalement chez Scudéry. Donc on le voit dans les recueils de dames illustres, hein, les listes de personnages répondent aux objectifs de l'auteur et il nous semble le significatif que ces poétesses grecques et pas seulement Sappho se trouvent là où les lettres sont à l'honneur. Elles sont véritablement la marque dans ces ouvrages d'une prise de position en faveur des femmes écrivains. Et il en va de plus en plus ainsi à mesure que l'aura de Sappho s'impose finalement et contamine en quelque sorte les autres poétesses. C'est donc une drôle de bataille. Et elle se mène également en dehors de la morale. Donc j'ai pas d'exemple comme vous voyez pour le grand 3, enfin pas de citation. Mais... Donc en dehors de la morale, ça reste de drôles de modèles ces poétesses antiques. En effet, il reste très peu de traces textuelles de ces autrices anciennes et cela pose problème car j'ai longuement parlé de modèles pendant ça fait trois quarts d'heure au moins que j'en parle, mais les modèles hein, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le modèle c'est Homère ? Bon voilà, c'est un poète aveugle, c'est un aveugle. Non, Homère c'est bien sûr ce qu'il a écrit qui sert de modèle. Or pour les personnages que j'ai présentés, ces poétesses grecques qui servent de modèle premier, nous n'avons quasiment plus de texte. Donc ces modèles littéraires sont des modèles dépourvus de textes, il y a très peu de choses. Or, on a besoin de modèles. Et si ces autrices antiques ont bien existé, leurs textes ont largement disparu. On cite peu les autrices médiévales, on cite peu les autrices qui datent d'une génération ou deux avant, parce qu'elles n'ont pas le même poids historique que les Grecs. Donc, on est obligé de prendre des modèles dont les œuvres ont disparu. Et cette question du modèle d'écriture apparaît dans quelques cas d'imitation. Louise Labbé, par exemple, a imité quelques textes de Sappho qui avaient été retrouvés à son époque. Elle adopte une posture, d'ailleurs, qui l'assimile à Sappho, c'est-à-dire la posture de l'amoureuse évincée et qui est dans une posture de lamentation. Mais quand on se penche vraiment sur les textes, il apparaît que Louise Labbé imite sans doute beaucoup plus Pétrarque hein, ou Ovide que Sappho elle-même, puisque les textes étaient difficiles à trouver, bien qu'elle ait pu le faire. Donc, en fait, restaient, à défaut des textes, restaient les figures d'auteurs, les figures auctoriales. Et j'ai constaté que ces figures d'auteurs, d'autrices, intéressent beaucoup plus que les textes. Et cela semble être une constante à travers l'histoire, comme le souligne Christine Planté dans son anthologie des femmes poètes du XIXe siècle. Elle constate que les textes de femmes ne sont en général pas préservés. Je cite « quelques études et biographies, mais très peu de textes disponibles. On s'est en général plus intéressé aux femmes qu'aux œuvres. » Et ça, comme vous le voyez, ça remonte à il y a très longtemps. Ce procédé met les textes au second plan, y compris sans doute les textes des modernes qui expriment, on l'a vu, leur crainte de subir la disparition faute d'être réimprimés. Et Christine Planté, toujours dans l'anthologie des femmes poètes du XIXe siècle, écrit, je cite, qu'il est frappant de constater que dès qu'une étude portant sur la poésie laisse de côté la discussion de la valeur esthétique ou poétique, pour s'intéresser à des questions historiques ou formelles, on voit des noms de femmes y apparaître. Donc quand il est question de style, de poésie, il n'y a plus de femmes. Quand il est question, on va dire, de questions historiques, d'histoire littéraire, en revanche, on peut voir apparaître des noms de femmes. C'est ce que dit Christine Planté. Donc on le voit bien, l'enjeu est avant tout esthétique et poétique. L'écriture des femmes peine à s'imposer dans le champ des lettres comme des chefs-d'œuvre. Et c'est pourquoi, à l'époque où les premières femmes que l'on connaisse un petit peu ont écrit, les poétesses grecques, à l'époque d'un nouveau renouveau des lettres féminines dans la Renaissance européenne, eh bien, ces figures sont évoquées très souvent, la figure du modèle, les seules qui aient survécu à des tris successifs au cours de l'histoire, et on doit les évoquer en raison de l'excellence de leur production, bien qu'il n'y ait plus qu'un nom. Du moins reste la réputation d'excellence à défaut de pouvoir la constater. Et dès lors, à chaque fois qu'il y a eu un renouveau des lettres féminines, discrètement, ces poétesses sont apparues. Par exemple, j'ai cité René Vivien en 1900, c'est un moment où il y a une ébullition des lettres féminines, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que les poétesses grecques jaillissent à nouveau. On pourrait maintenant expliquer la survivance des poétesses grecques par un paradoxe également. Ces figures sont peu connues, elles n'ont plus beaucoup de textes, les sources antiques ne sont pas si nombreuses ni si importantes. Les figures elles-mêmes sont difficiles à retrouver, les textes étaient en grec, donc autant dire que c'était difficile à lire pour certains, parfois non traduits. Mais l'obscurité de ces premières figures féminines de l'histoire littéraire comporte un avantage. En fait, les poétesses grecques sont souvent réutilisées parce qu'elles sont peu connues et peu documentées. La réception, qu'elle soit misogyne ou philogyne, peut en faire exactement ce qu'elle veut. Et cela fonctionne pour les figures comme pour les textes, qui sont tous deux fantasmés et recomposés sur les bases les plus fragiles qui soient. En fait, à chaque période, la réception fabrique de nouvelles images de poétesses grecques, en miroir de la construction sans cesse renouvelée et recommencée d'une place des femmes dans le champ littéraire, dans la société aussi d'ailleurs en général. Donc à travers les exemples de Louise Labbé ou de Madeleine de Scudéry, il est question de la restitution des accents de la poésie de Sappho. En effet, dans les deux cas, Louise Labbé et Madeleine de Scudéry disent qu'elles ont la même expérience que Sappho, la même expérience de vie, et elles disent qu'elles écrivent de la même façon. Mais en réalité, il s'agit sans doute de légitimer avant tout leur type d'écriture. J'ai une petite citation que je n'ai pas mise là, mais quand même, qui est assez intéressante, qui vient de Madeleine de Scudéry, qui écrit une histoire de Sappho dans son grand roman fleuve, l'Artamène, ou le Grand Cyrus, qui a été écrit entre 1649 et 1653. Donc au départ, en effet, on reconnaît Sappho. Elle, Sappho, dépeignait admirablement la douceur des regards, le battement de cœur qu'une agréable surprise donne, l'émotion du visage, l'hésitation de l'esprit et tous les mouvements d'une âme passionnée. Par ses vers, elle représentait la félicité de deux personnes qui s'aiment et prouvait par là qu'elle n'avait besoin que d'elle-même pour vivre heureuse, décrivant ensuite la tendresse de leur affection, leur sincérité l'une pour l'autre, leurs plaisirs, leurs promenades, leurs entretiens sur la douceur de l'amitié et mille autres choses semblables. Mais, madame, tout ce que l'amour la plus délicate peut inventer de délicieux était décrit dans ces vers, quoiqu'il ne s'agit que d'exagérer la douceur de l'amitié. Et je n'y vis Et je ne vis de ma vie rien de si beau, de si galant et de si passionné. Évidemment, c'est Scudéry qui écrit de façon galante, passionnée. Hein, ça n'est pas sa faute. Donc, on réutilise un modèle et on le réinvestit de sa propre poétique. Alors, en conclusion, on voit bien que dans la première modernité, on avait besoin de modèles. Mais ces modèles, c'était intéressant aussi qu'ils se présentent, ainsi que je l'ai dit, donc, c'était des modèles antiques, intéressants pour leur prestige, mais c'était des modèles creux, qui étaient vides, et qu'on pouvait affubler des qualités que l'on voulait. Et quand on se penche sur la réception des premières voix de femmes, qui sont des modèles nécessaires pour les écrivaines qui vinrent ensuite, il ne s'agit pas de penser le statut des femmes en général à travers le cas des poétesses grecques, il ne s'agit pas non plus de retracer l'évolution du rôle dévolu à un groupe de femmes. En fait, il s'agit d'étudier avant tout la question des origines de l'écriture féminine qui se présente comme une construction fantasmatique sans cesse renouvelée. Et bien sûr, au centre se trouve la question de la légitimation de l'écriture féminine. Il apparaît dans ces questionnements que les autrices ont été constamment regroupées à travers l'histoire. Il s'agit d'un phénomène qui, bien sûr, n'est pas systématique. Certains ne les regroupent pas. Néanmoins, ce phénomène de regroupement est fréquent et a traversé les siècles jusqu'à aujourd'hui. Or, les regroupements, on l'a vu, pouvaient se faire avec des objectifs diamétralement opposés. Regrouper pour mieux éliminer les femmes, c'était l'invisibilisation, ça pouvait être aussi les regrouper pour mieux les protéger et les mettre en valeur. Mais alors, ce faisant, si on les regroupe pour les mettre en valeur, néanmoins on les regroupe et on les exclut du corpus qui devrait être mixte. Il s'agit donc de ce que j'ai appelé une ghettoisation finalement des femmes. En tout cas, dans les deux cas, cela revient à nier la normalité de l'autrice qui devrait être mêlée tout simplement aux auteurs dans les anthologies et dans les manuels d'histoire de la littérature, sans qu'il doive être nécessaire de faire des manuels spécifiques. Néanmoins, ne faut-il pas continuer à séparer auteurs et autrices tant que la place légitime de ces dernières ne sera pas assurée dans nos ouvrages de référence ? Dans le cas des questionnements des autrices d'aujourd'hui, il faut noter aussi la disparition de ces modèles originels des poétesses grecques comme entité vivante dans la littérature. C'est peut-être la puissance de l'enjeu d'écriture qui explique leur éclipse. En effet, le risque d'une absence de publication, le risque d'une disparition des œuvres de femmes semble moindre. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autrices. Peut-être aussi est-ce grâce au triomphe de l'individu. Les auteurs eux-mêmes aussi se positionnent souvent face à la masculinité, la virilité, ce qui n'était pas le cas auparavant, ou pas dans les mêmes termes. Dès lors, aujourd'hui, la bipolarité entre femmes et hommes de lettres tend peut-être à disparaître. Cependant, rappelons que Carol Anne Duffy, poétesse anglaise qui doit avoir 65 ans maintenant, quelque chose comme ça, a récemment préfacé une traduction de Sappho, en la présentant comme la plus grande autrice de l'Antiquité et en l'adaptant à ses propres thèmes, à la manière de Scudéry quelques siècles plus tôt. Il est une dernière chose que je n'ai pas évoquée et je finirai sur elle. Ces poèmes pourraient bien avoir été retenus au bord de l'oubli mérité. Un oubli qui les avait déjà profondément rongés, simplement pour leur valeur de preuve et de polémique. Est-ce qu'on les a retenus seulement parce que ce sont des œuvres de femmes, donc pour une valeur polémique ? Il est parfois difficile de retrouver la véritable mesure, la véritable qualité de ce qui est religieusement récupéré dans les débris du naufrage de la culture antique. Nos poétesses sont-elles le produit d'une sorte d'imposture ? La raison de la survivance des poétesses est-elle liée à la rage philologique jointe à la rage polémiste ? Erina écrivait « Stèles et sirènes miennes, et toi, urne du deuil, qui garde pour Hadès mon peu de cendre, aux passants qui longent mon tombeau, dites salut. » Et ce que je vous propose ce soir, c'est d'avoir la modestie de rendre simplement ce salut qui nous est adressé à travers l'épaisseur du temps, sans nous dresser en juge. L'heure est venue, je crois, de faire silence et, comme disait Corinna, que l'on écoute cette chanson de vous. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions, des poèmes ?
Des poèmes.
Moi, j'ai juste une question très factuelle, parce que j'ai toujours vu les mêmes poèmes de Sappho dans les anthologies. En fait, tu as dit que le corpus était mince. Est-ce qu'on pourrait savoir exactement, tu pourrais nous dire exactement combien il y a de poèmes, quelle est l'étendue de ce corpus? Parce que j'en sais rien. On voit toujours ces poèmes-là.
Je ne sais pas s'il n'y a que ça. Non, en fait, si on prend le corpus, ça fait une épaisseur à peu près comme ça, en bilingue, mais parce que beaucoup, il y a beaucoup de fragments. Il y a seulement 2 poèmes entiers. Seulement. Et même l'Ode à l'aimé, qui est le poème le plus connu, n'est pas. En fait, il manque une strophe. Donc il y a 4, il y a 3 strophes visibles encore, il en manque une. Énormément de fragments, ça peut être. C'est complètement mité, en fait, sa poésie. Il y a des trous partout. Et bon, il y a 200 fragments à peu près, hein. Mais le fragment, ça peut être un mot. Voilà, c'est ça. C'est des fragments cités dans d'autres textes, qui sont cités dans des grammaires, par exemple, parce qu'elle écrivait dans une langue particulière. Ça peut être aussi des choses dans le traité du sublime, par exemple des traités de littérature. C'était l'une des femmes qui était citée dans ces traités-là. Et puis aussi, il y a un fait intéressant, c'est qu'aujourd'hui encore, on découvre ces textes. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans peut-être, quelque chose comme ça, il y a moins de 10 ans, on a redécouvert des textes de Sappho, qui ont été exhumés dans les sables du désert égyptien. Oui, c'est tout nouveau. Oui. Donc on a pu vérifier et compléter un texte comme ça. Donc on espère en découvrir encore. Et pour ce qui est des autres, on peut avoir 5 ou 6 épigrammes complètes. En tout. Et beaucoup de fragments, beaucoup, beaucoup de fragments.
Moi, j'avais une remarque sur la conclusion, enfin, puis qui est un peu une question aussi sur l'hypothèse que la bipolarité tendrait à disparaître entre femme et homme de lettres. Je me demande en fait si on a l'impression, oui, quand on voit là les auteurs et les autrices, en même temps, il y a déjà eu des travaux qui ont été faits qui montrent, par exemple, il y a chez des grands éditeurs comme POL, Vertical, on reste avec 70% d'hommes et 25% de femmes, en fait, sur les chiffres qu'on a un peu partout, tout le temps, en fait, dans la culture aussi. Et puis sur cette reconnaissance, et que dans les bourses qui sont données par le Centre National du Livre, en fait, ça reste aussi une disproportion importante. Mais c'est vrai qu'on. Donc, en fait, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas actuellement l'effet un peu qu'il y avait à l'époque de. Bah, il y a des femmes, des hommes qui écrivent, voilà, et petit à petit, l'histoire va faire son travail. Et a déjà commencé. Enfin, en fait, il y a des signes, mais on les voit moins. Enfin, le nombre, faut compter le nombre de femmes chez des éditeurs. Donc, on compte pas forcément ça. En fait, on regarde pas forcément. Donc, ça, c'était ça. Est-ce que c'est pas un leurre cet effet contemporain Et puis après, j'avais une question sur mais c'est complètement autre chose. Donc, peut-être pour revenir sur ces traits-là, en fait, stylistiques d'une écriture femme. Une question précise, par exemple, est-ce qu'à un moment, dans ces éléments d'attribution et d'identité que vous évoquez, est-ce que des fois on se trompait? Enfin, vous voyez comment ça se passait et quels sont ces traits-là? Parce que moi, je ne connais pas du tout cette idée d'un style féminin dans l'Antiquité, mais je connais les travaux des années 70 d'Hélène Cixous, de Béatrice Didier, 80, sur l'écriture femme, qui ont énuméré des choses que vous avez suggérées plus que, voilà, donc savoir si c'était les mêmes choses, c'est-à-dire en gros, les femmes, il y aurait davantage un style lié à la voix, lié au corps, lié à la sensibilité.
C'est vaste. Alors, effectivement, moi je suis complètement d'accord, c'est pour ça que j'ai peut-être que ça tend, hein, j'ai marqué donc une certaine distanciation. J'ai vu aussi un article assez récent disant que finalement les femmes avaient même disparu de la littérature dans les années 1830, parce que, alors j'ai oublié le titre de l'article et le nom de la personne qui a fait l'article, mais en fait l'idée c'était que finalement avec un nouveau modèle de société, puis le fait que la sociabilité se faisait dans les cafés, etc., hein, ben les femmes ne pouvaient pas y aller en fait, hein, ce qui fait qu'une grande partie de la production littéraire leur échappait. Et donc il y aurait eu une réduction statistique du nombre de femmes auteurs à cette époque-là. Donc effectivement, ça n'est pas un mouvement linéaire et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui nous soyons tout à fait sortis des impasses du passé. Je pense que nous y sommes plus sensibles aujourd'hui dans notre société. Et je pense aussi qu'effectivement, les hommes eux-mêmes font un vrai travail sur leur place, sur plein de choses. Il y a le queer, le mouvement queer aussi qui vient ici pour, je pense, mettre un peu de fraîcheur dans tout ça, heureusement, et essayer de casser les bipartitions. Donc oui, attendons de voir et espérons. Et pour la deuxième question, en effet, alors là, pour l'Antiquité, je ne crois pas qu'il y ait une écriture femme. Alors après, bon, je dis ça sans certitude, mais par exemple, dans certaines études qui ont été menées par des antiquisants sur certains textes de femmes, ou réputés de femmes, parce que c'est ça le problème aussi, eh bien, dans un des textes, il est question de l'intérêt pour les animaux qu'éprouve Anité, par exemple. Et c'est vrai qu'elle a fait des épigrammes sur des animaux morts. C'est l'une des premières à le faire. Donc quelqu'un disait dans un article, Sylvia Barnard disait que l'intérêt pour les animaux montrait bien que c'est, enfin, voilà, c'était un intérêt féminin, etc. Sauf que pour l'Antiquité, ça ne marche pas. Donc en fait, des fois, on a des transpositions comme ça dans les recherches actuelles qui n'ont pas de sens. Alors après, par exemple, chez Erina, il y a un texte très intéressant qui s'appelle « La quenouille » qui a été découvert dans les années 20, 1928, je crois, enfin très tard. Pareil, c'est un papyrus qu'on a retrouvé comme ça. Et après des fouilles, hein. Et en fait, c'est tout un texte en l'honneur de sa jeune compagne Baucis, qui était morte. Et donc, il y a tout un vocabulaire, une description de leur jeu d'enfant, de petite fille, forcément. Donc, il y a quand même parfois une création d'un univers féminin, si on peut dire.
Bonsoir. J'avais une question d'abord plus au niveau de la terminologie. J'ai eu un petit problème au fur et à mesure de votre présentation sur la différenciation que vous faisiez par moment entre femme auteur et autrice. Donc je voulais que vous reveniez un petit peu sur cette différenciation peut-être, si possible. Et une question peut-être un peu plus provocante, entre guillemets. À un moment, vous avez abordé la question de la moralité qui primerait pendant un certain temps sur l'excellence littéraire et donc de cette division qu'il y avait entre l'œuvre et l'auteur. Qui est du coup très actuel, puisqu'on a aujourd'hui encore des problématiques sur ce genre de thématiques, notamment avec Polanski en ce moment. Donc je voulais aussi que vous reveniez un petit peu sur ces affirmations et que vous essayiez de creuser la question peut-être un peu plus.
Alors pour ce qui est de la première question, en fait, quand j'utilise autrice naturellement pour parler de la femme qui écrit, hein, mais quand j'utilise souvent femme auteur aussi pour souligner le fait qu'on les considérait comme femmes, un peu comme ce qui apparaît là dans la citation de Barbet d'Aurevilly quand il disait que donc il y a des écrivains femmes, en fait les femmes peuvent être poètes, écrivains, artistes, mais c'est poète femme, écrivain femme, artiste femme. Donc à chaque fois que dans les textes sur lesquels je me penchais ou quoi, il était question justement avant tout de leur féminité, plus que du côté auteur. Ben là, je dis auteur, femme, femme, auteur, pour cette question-là. Alors, pour la question de la moralité, je ne m'attendais pas à Polanski ce soir. Alors, c'est, dans les siècles les plus anciens, les questions étaient différentes. Je dirais même que dans l'Antiquité, la moralité n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, puisqu'on considérait, enfin, l'homosexualité n'était pas du tout un crime, loin de là, contrairement à ce que ça a été dans nos sociétés ensuite. Ce qui comptait, c'était le statut social, c'était pas l'orientation sexuelle. Ou, voilà. Donc, après, on faisait ce qu'on voulait dans l'intimité. Hein. En revanche, effectivement, dans l'Ancien Régime en France, là, les choses étaient quand même plus complexes. Puisque l'homosexualité était punie de mort, comme vous le savez. Hein. Et puis, par ailleurs, il y a toute une pression sociale, plus même qu'une condamnation à mort, comme il pouvait y avoir pour les homosexuels, il y a toute une pression sociale, qui fait que si on se présente comme personnage public, pour une femme, ça peut être un petit peu gênant. Alors après, des questions pour Polanski, moi je dirais que tout simplement, c'est plus simple, c'est de la pédophilie, donc c'est condamné par la loi. C'est pas une question de morale, c'est une question de loi. Après, je l'ai... voilà.
Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport aux galeries de portraits de femmes. Mmh. C'était quel public exactement? Parce que vous avez dit que ça s'adressait à un public féminin, mais c'était en 1600. Qui savait lire dans la société à l'époque?
Alors, en fait, souvent, c'était des femmes de la haute société ou de la bonne bourgeoisie. Donc, évidemment, ça veut dire que 80%, allez, soyons... 80% de la population féminine échappait à ce type d'ouvrage, puisque 80% de la population féminine ne savait pas lire, déjà. Donc c'est forcément l'élite de la société. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rejaillissement, c'est-à-dire que les femmes étaient aussi très investies dans des actions de charité. Et après, ce qui se passe au XXe siècle, par exemple, les origines du féminisme, quand on voit... Pankhurst ou d'autres, il y a une charge morale forte dans leurs réflexions, c'est-à-dire qu'elles sont très en faveur des droits politiques, mais après elles s'en prennent énormément pour les questions de mœurs. Elles ne sont pas du tout dans une mentalité queer, pour le coup c'est le moins qu'on puisse dire. Au contraire, elles sont très on pourrait dire aujourd'hui réactionnaires du point de vue des mœurs. Donc là, c'est pareil, dans l'Ancien Régime, on pouvait avoir des entreprises pour venir en aide à des femmes qui pouvaient être dans le besoin, donc des pauvres ou quoi. Et on pouvait trier aussi en fonction de leur moralité.
Bonsoir. Moi, en vous écoutant, j'ai pensé à la question de la légitimité. En fait, j'ai pensé à la poétesse médiévale Christine de Pisan. Je me disais, est-ce que le fait qu'il a occupé une fonction aux côtés du pouvoir, ça lui donnait plus de légitimité par rapport à d'autres poétesses?
Alors effectivement, il y a toutes les poétesses aussi du Moyen-Âge, comme Marie de France, qui était une princesse royale. Il y a eu ou la sœur de François Ier, hein, Marguerite aussi, qui ont été des autrices majeures et qui, en effet, pouvaient profiter de cet emplacement près du pouvoir pour faire des choses. Déjà pour protéger des auteurs qui pouvaient écrire en faveur des femmes et en outre pour elles-mêmes écrire. Après, malgré tout, c'était quand même des postes, comme vous le disiez, près du pouvoir et donc on dépendait des grands. Aussi, ça veut dire qu'il ne fallait pas forcément non plus faire n'importe quoi, puisqu'il y avait une censure politique. Mais les hommes, pareil, je dirais. Hein, donc il n'y a pas forcément de différence là entre les hommes et les femmes. La seule différence, c'est qu'effectivement, elles pouvaient recevoir une éducation particulière. Et dans le cas de Christine de Pisan, c'est un peu particulier, puisque son père était favorable à l'éducation des jeunes femmes. Donc il pensait qu'il était bon que les femmes aient la même éducation que les hommes. Alors que là, c'est pareil, j'aurais pu vous donner un texte d'Agrippa d'Aubigné qui dit qu'il ne faut pas que les jeunes femmes lisent, parce que si elles lisent trop, bah finalement, après, elles sont malheureuses en couple, parce que, c'est vrai, hein, véridique, j'aurais dû la sortir, mais, parce que finalement, si elles lisent trop, elles seront aussi, voire plus intelligentes que leur mari. Or, étant donné qu'il y a une hiérarchie à respecter, ça mettrait en danger cette hiérarchie. Donc vous voyez, c'était assez peu fréquent quand même que l'on donne la même éducation à une femme et à un homme. Et en général, on donnait une éducation de princesse à la princesse, c'est-à-dire comment devenir une bonne régente en l'absence du roi, par exemple, comment devenir... elle pouvait être chef de guerre s'il le fallait, elle pouvait être plein de choses en l'absence de l'homme.
Je me pose des questions sur un auteur que j'aime bien, qui est très peu étudié à l'université, qui est Colette. Et je me demande dans quelle mesure elle n'est pas victime d'avoir été en quelque sorte la créature d'une production masculine, puisque son œuvre est très inégale, qu'elle a été la créature de Willy, que ses textes sur les animaux ont été énormément exploités dans le cadre d'une littérature de jeunesse sentimentale. Et donc, on a l'impression que son statut souffre beaucoup de n'avoir pas été justement un de ces auteurs féminins, un de ces grands auteurs féminins maudits, puisque justement, elle s'est imposée dans un univers masculin. Et on a l'impression qu'il y a une sorte de retour de bâton à cause de ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah, c'est possible. Puis bon, il y a toute la dimension sulfureuse du personnage en plus qui a pu ajouter une dimension...
Ça la sauve un peu.
Ça la sauve, certes.
La sexualité, ouais, oui.
Et en fait, oui, elle est peu étudiée aujourd'hui. Néanmoins, bah, bon, j'ai fait partie d'un jury dans lequel on avait décidé qu'il fallait qu'une autrice soit au programme. Donc, on avait, enfin, que le texte tombe, ce soit un texte de femme, et on avait mis Colette. Donc, quand même, c'est une reconnaissance institutionnelle qui existe un petit peu malgré tout. Mais c'est sûr que par rapport à la princesse de Clèves ou quoi, elle n'a pas du tout...
On peut penser qu'il y a des textes comme La naissance du jour, enfin il y a des très grands textes de Colette.
Il y a d'excellents textes de Colette, oui, fondateurs, et qui ont servi de modèle en plus. Enfin, c'est un grand écrivain, une grande écrivaine.
Une grande écrivaine.
Mais oui, c'est quelqu'un d'important, et effectivement, bah, vivement qu'elle soit à la grègue.
Je suis contente d'entendre ça.
J'ai une question, enfin c'est une interrogation, et j'espère, enfin je pense que vous allez pouvoir m'éclairer. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est peut-être naïf de ma part. Ce sont les femmes écrivains, et j'utilise ce terme à dessein, qui, enfin, les femmes écrivains aujourd'hui, comme j'ai en tête Delphine de Vigan et Christine Angot, par exemple, qui refusent la désignation d'écrivaine et qui préfèrent écrivain. Et j'avoue que naïvement, peut-être que je me voile la face, mais je ne comprends pas la différence qu'il y aurait. Enfin, certes, bien sûr, il y a une différence de genre grammatical, non masculin, non féminin, certes, mais je ne vois pas de différence qu'il pourrait y avoir derrière. Et voilà, je me demandais si vous pouviez m'éclairer là-dessus.
Ouais, c'est une question monumentale. Alors, effectivement, il n'y a aucun problème à dire boulanger-boulangère. Hein, je vais chez ma boulangère, bon, y a aucun problème là-dessus. En revanche, en raison du poids historique des choses, des mots, eh bien, on considère que écrivaine, c'est un mot contemporain, nouveau, et que par conséquent, c'est un mot dévalorisant, parce que c'est un néologisme en fait. Après, il y a tout un groupe qui a travaillé à montrer que la langue s'était masculinisée, parce qu'aujourd'hui, on parle de la féminisation de la langue. En revanche, on peut montrer aussi qu'elle s'est masculinisée justement au XVIIe siècle. Et le mot autrice est un mot très ancien, par exemple. Hein. Donc effectivement, mais c'est ça qui est gênant pour les femmes auteurs. C'est justement qu'elles sont femmes auteurs. Et même Yourcenar, que je citais au début de mon propos, hein, qui disait « d'autres méritaient cette place avant moi, d'autres femmes », elle-même ne voulait pas être catégorisée comme femme. Elle disait « je suis un écrivain, je suis un auteur ». Parce qu'en disant cela, ça voulait dire « je ne veux pas qu'on me lise parce que je suis une femme » ou « comme une femme ». Et donc là, dans le cas de ces personnes, c'est ça. Et le poids, je souhaite le jour où le mot « autrice » sera comme le mot « boulangère » et ça ne voudra pas dire « je lis la personne pour son sexe » ou « comme femme », mais parce que bah, c'est une femme, bon, et quoi d'autre ? Il n'y a pas de problème. Mais on n'en est pas encore là.
Peut-être préciser qu'on a reçu Eliane Vienneau qui a travaillé justement sur la masculinisation de la langue et que sa conférence elle est en ligne.
Ouais, je voulais rajouter un élément et puis poser une question justement sur ce sujet-là. C'est vrai que en fait, le problème de cette revendication ou refus de féminiser le nom peut avoir des origines qui sont quasiment contradictoires. En fait, ça peut être... Il y a toute une génération de femmes, je crois qu'il y en a moins maintenant, mais... qui disait bah, c'est le statut, et le statut est masculin aussi. Il y avait ça pour plein d'autres statuts. Enfin, je sais pas, on avait avant une directrice générale des services, là, le plus haut poste à l'université de Poitiers, qui refusait de se faire appeler directrice. parce qu'elle était la première femme à avoir été directeur général des services dans l'histoire. Et donc ça, on pouvait le comprendre, en fait, elle dissociait vraiment la fonction et la personne qui... Donc peut-être qu'il y a ça, et puis après, il y a... et là, j'en arrive à ma question, effectivement, les partisanes et partisans d'un féminisme qui ne serait pas essentialiste, différentialiste, et qui dirait, ben, en fait, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de sexe. Donc la question, elle ne devrait même pas être formulée comme ça. Et c'est pour ça que vous évoquez ça à la fin dans votre conclusion, en fait, cette idée de ghettoisation. Et alors, ça, c'était plutôt d'un point de vue négatif. Et puis, peut-être faut-il encore les séparer pour les faire exister. Enfin, ça, c'est toujours le problème qu'on a. C'est comme les quotas. En fait, ça ne joue pas seulement pour l'écriture. Donc ça, moi, je me demandais si vous pouviez creuser ça, ce que vous pensez de cette manière de perpétuer ou pas l'essentialisme ou le différentialisme.
Bah, ça perpétue. Forcément, de les séparer, ça perpétue l'essentialisme, ou en tout cas l'établissement d'une différence. Néanmoins, on le voit bien dans les programmes scolaires, quand on veut mettre au programme une femme, on cherche les textes, et bien on a du mal à trouver des éditions, qui soient des éditions scientifiques ou quoi que ce soit. C'est un vrai effort, en fait, de mettre des femmes au programme. Donc, il est préférable, je pense encore, malgré tout, de procéder de la sorte, en espérant que ce soit la fin, le bout du tunnel, en quelque sorte, qu'il ne soit plus nécessaire à l'avenir de le faire. Mais si on ne le fait pas, on va pérenniser finalement les canons qui existent actuellement et finalement avoir toujours les mêmes auteurs, toujours les mêmes choses, et donc toujours 5% de femmes dans les programmes, à mon avis. Mais...
Je me permets là-dessus, parce que vous voyez, on s'est posé la question, le festival littéraire qu'on organise à l'université, la Bruit de Langue, on s'était dit, bah, c'est les 10 ans, tiens, on va le faire 100% féminin, en fait. Et finalement, on a renoncé, parce qu'on ne voulait pas qu'on pense de l'extérieur, qu'on avait fait un effort pour trouver 100% de femmes. Et donc, je ne sais pas combien il y aura, on n'a pas reconté, mais sans doute 80% de femmes, sans qu'on y ait pensé maintenant. On a préféré ça plutôt que de. Voilà, parce que ça nous était renvoyé.
Oui, ce qui est mieux, je pense aussi, effectivement. Ça fait moins, bah voilà, on a pris tous les fonds de tiroir, et voilà. C'est sûr. Bah, oui, bien sûr. Et sur la féminisation, j'aimerais aussi parler de maîtresse de conférence, puisque quand on se présente comme maîtresse de conférence, il y a toujours des gloussements, hein, forcément. Alors moi, j'ai tendance à répondre « on y soit qui mal y pense ». Voilà. Mais il y a le poids encore des mots. Je réponds aussi souvent que le mot « étudiante » que vous utilisez aujourd'hui, très souvent, à l'origine, ce mot était utilisé pour désigner une femme entretenue par un étudiant. Puisqu'il n'y avait pas d'étudiante. Forcément. Donc, vous voyez, les mots changent, en fait. Et heureusement.
Oui, comme souvent, c'est la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien.
Voilà.
On a tous les exemples... De la femme d'eux, en fait, c'est la féminisation. Et l'idée de dévalorisation aussi des métiers par la féminisation des mots. C'est pour ça que c'est peut-être important de passer par une phase de nommer avant d'effacer justement le genre.
Je voulais juste dire que c'est très amusant à la vitesse à laquelle ça évolue. Parce que tout à l'heure, il y avait Hélène Niège qui était à côté de moi. Quand elle a pris son décanat, elle signait doyen. Et maintenant, elle met doyenne. Et il y avait... l'équipe des canals, il y a des femmes qui signaient assesseur au masculin. J'ai entendu Christine Baron dire les mêmes raisons pour lesquelles tu as parlé de directeur, hein, quand tu auras autant de femmes assesseurs que voilà, je signerai au féminin. Et je crois que ça aussi c'est en train de bouger en l'espace de 2-3 ans.
Oui, il y a eu un grand mouvement sur ces questions de langue, il y a eu un grand mouvement récent, ben justement sous l'impulsion d'Eliane Viennot notamment, et de ce groupe-là qui l'entoure aussi.
Bien, on va arrêter parce qu'il y a une conférence qui suit. Merci beaucoup pour votre conférence. Merci à vous. Et peut-être pour le prochain rendez-vous des amphidélètes, donc cette fois à 14h, ce sera le 5 décembre, donc c'est le jour de grève nationale, mais on aura une journaliste radio de France Culture et une de Bretagne qui ont travaillé sur le scandale des algues vertes et toutes les industries derrière.